Le journal présenté par Nader Koko.
Un glissement de terrain fait 16 morts dans le territoire de Mahdi en province orientale, c'était la semaine dernière. Selon la société civile locale, le glissement de terrain a été causé par des fortes précipitations dans cette partie du district de l'Ituri. Et la nature encore, à la base d'autres morts à l'Équateur, au moins 6 personnes ont péri lors d'un naufrage samedi dernier à 2 km en amont du territoire de Libengue sur la rivière Ubangi. Le nombre des passagers à bord reste encore inconnu. L'aide offerte par le gouvernement aux sinistrés de Kanyola en territoire de Walungu tarde à parvenir à leur destinataire. Certaines associations locales de développement accusent les personnes qui l'ont reçue, accusation rejetée par le président de la société civile de Kanyola. Mesdames et messieurs, bonjour. Cette information en provenance de l'Équateur, encore des morts cette fois-ci donc à l'Équateur. Au moins 6 personnes ont péri lors des naufrages samedi dernier à 2 km en amont du territoire de Libengue sur la rivière Ubangi. Une baleinière transportant des marchandises et plusieurs personnes a chaviré suite à une pluie accompagnée d'un violent vent. Le nombre des passagers à bord reste encore inconnu. Des précisions avec Henri Lobondo Bokelou.
Selon le rapport du comité de sécurité du territoire de Libengue transmis aux autorités du district du Sud Ubangi ce lundi, cet accident a eu lieu samedi dernier alors que la baleinière qui portait une immatriculation centrafricaine quittait Libengue pour Bangui. À son bord, des marchandises et plusieurs personnes de nationalité centrafricaine et congolaise dont le nombre n'est pas connu faute de manifeste. Selon le rapport, après 2 km de navigation, l'embarcation a rencontré un vent violent qui l'entraîna jusqu'au milieu de la rivière avant de la basculer. Jusqu'à maintenant, 6 corps ont été repêchés, confirme l'inspection du district de la police. Les victimes sont 2 Congolais et 2 Congolaises, en plus 2 Centrafricaines. Les autres passagers sont portés disparus. Un seul survivant pour le moment, un sujet centrafricain, sauvé grâce à un bidon d'huile qui lui a servi de bouée de sauvetage pour gagner la rive. La mer, la DGM et la police fluviale enquêtent et les recherches pour retrouver les disparus se poursuivent. Henri Lobondo Bokelou, Guémena, Radio Okapi.
Revenons sur cette information. À Ituri, meurtrière pluie diluvienne la semaine dernière à Mahdi, territoire situé à environ 200 km au nord de Bunia. 16 personnes sont mortes, parmi lesquelles 2 enfants. Selon la société civile locale, ces personnes sont mortes suite au glissement de terrain qui a emporté leur maison. Récit des faits, Jean-Claude Delot, qui vous est en ligne.
Oui, le premier drame a été enregistré mercredi dernier à Kouda, localité située à environ 40 km au sud de Mahdi Centre. Dans ce village, suite à une forte pluie qui avait provoqué des glissements de terre, 7 personnes issues de familles différentes sont mortes, englouties par la terre. Selon la société civile de Mahdi, de ce drame, seule une vieille maman s'en est sortie saine et sauve. La même source ajoute qu'à Mahdi Centre, cette fois-là, jeudi, une maison construite a appris que Kouit s'était écroulée sur 5 enfants, tous de moins de 10 ans. 2 parmi eux sont morts et les 3 rescapés avaient été admis dans des centres de santé de la place. Cependant, vendredi dernier, à Ouizi, à 40 km de Mahdi Centre, d'autres glissements de terre avaient détruit des maisons et entraîné la mort de 7 personnes. Cette information est confirmée par la Lipado, une ONG locale de défense des droits de l'homme. Par ailleurs, le même jour, à Akonjkan, un centre commercial situé à 22 km de Mahdi Centre, pendant qu'il pleuvait, 3 filles avaient été frappées par la foudre et admises dans un hôpital de la place. Un député provincial originaire de ce territoire, il se trouvant en vacances parlementaires, déplore le fait qu'aucune assistance n'est encore effectuée en faveur des rescapés. Bounia, Jean-Claude Loki, Radio Kapi.
Au Kasaï occidental, dans le centre du pays donc, le premier train des passagers de la Société nationale de chemin de fer du Congo est bloqué à la gare de Kakenge à 170 km de Kananga depuis hier dimanche. La cause, sur instruction de sa hiérarchie, le chef gare refuse de le laisser passer à cause de la surcharge en passagers. Du coup, les passagers en provenance d'Ilebo et ceux qui attendaient ce train à la gare de Kakenge ne peuvent joindre Kananga. Piro et la Meji pour les détails.
Venant d'Ilebo, ce premier train passager depuis la catastrophe est toujours à Kakenge depuis 24 heures. Il est plein de passagers déjà en surnombre. Ceux qui sont à Kakenge sont aussi à un nombre important en attente à la gare. tous une volonté, rejoindre Kananga par la voie ferroviaire. Pour les autorités de la SNCC, il faut diminuer la charge et éviter une autre catastrophe humanitaire. Alexis Daniel Kabeya Chilunda, directeur du district de la SNCC Kananga.
Nous nous sommes dit, si nous laissons partir ce train durant cette nuit, il n'y a personne qui accepterait de rester. Et il y a des personnes à mesure de couper les boyaux, la machine devient incapable de freiner, nous risquons de connaître encore le même cas que le 1er août. Comme nous avons une carence de voitures, dès que ce train arrive, nous allons choisir encore 2 ou 3 voitures en fonction des personnes qui seront inventoriées à Kakenge, afin qu'ils puissent regagner Kananga en toute sécurité.
Les passagers d'Ilebo passent la nuit à bord. Pas question de bouger, de peur de perdre sa place. Les organisations de défense des droits de l'homme sur place à Kakenge sont préoccupées et demandent à la SNCC de trouver une solution à cette situation. Pour l'OCDH Casse Occidentale, les passagers d'Ilebo ne peuvent être privilégiés au détriment de ceux de Kakenge dans la mesure où Kakenge est un centre important de production des produits vivriers. La police sur place s'est dit faire ce qu'elle peut pour contenir la situation. De Kananga, Pierrot et Lameji, Radio Kapi.
Dans l'autre Kasaï, l'Oriental, à Mbujimayi, le commissariat de la police saccagé et 2 policiers grièvement blessés hier dimanche dans l'après-midi au cours des affrontements. Les habitants du quartier Chikila Njinji s'opposaient à la police. À la base, l'arrestation par la police d'un civil soupçonné de creuseur clandestin appelé là-bas suicidaire. Récit des faits avec Esther Ndalassina.
Ces affrontements ont commencé en fin d'après-midi aux environs du marché Chikilanjinji dans la commune de Djoulou. Les habitants du quartier réagissaient ainsi à l'arrestation d'un présumé creuseur clandestin par les éléments de la police du commissariat situé non loin du marché. Ceux-ci étaient sollicités par un groupe de creuseurs pour arrêter leur ami qu'ils soupçonnent de suicidaire. La raison évoquée par ce groupe est qu'il s'est solidarisé pour un problème de santé, expliquent des témoins. Cependant, ils expliquent aussi que la victime a été maltraitée et passée à tabac par la police jusqu'à perdre la connaissance, d'où la réaction des populations. Cependant, ils expliquent aussi que la victime a été maltraitée et passée à tabac par la police jusqu'à la perte de connaissance, d'où la réaction des habitants du quartier. J'ai des pierres contre les policiers, 2 s'en sont sortis blessés grièvement et amenés d'urgence dans un centre hospitalier de la place. La victime a été transférée lui aussi dans un hôpital de la place. Ce matin, la police est en train de procéder aux arrestations. Le commandant de la police locale déclare que cette action est menée pour récupérer 2 armes emportées par les manifestants. Mbujimayi, Esther Ndalassina, Radio Okapi.
À Pangui, territoire situé à 107 km au sud-est de Kindu, la police ne collabore pas avec l'autorité politico-administrative locale. Information confirmée par le secrétaire administratif du territoire, la société civile de Pangui dénonce ces faits qui, selon elle, rend les tracasseries policières monnaie courante. Rémi Oscar Alimasi Kimankata est au micro de Jean-Serge Chindani.
Le comportement de la police avec la population ici, il y a le problème de la tracasserie, surtout les makoulous. Les makoulous font rage ici. Et puis les mandats d'amener, les arrestations parfois pendant 48 heures, sans être entendus, sans aucune forme de procès, ça nous laisse beaucoup à désirer.
Interrogé à ce sujet, le commandant de détachement de la police nationale au Maniema dit ignorer l'affaire. Le général Honoré Kafulu Kimwanga demande par ailleurs à la société civile et aux responsables administratifs de Pangui de fournir les preuves de leurs allégations. Une 50aine d'anciens agents et membres de cabinet des gouverneurs de la province orientale ont observé un sitting cet avant-midi devant le bâtiment de l'Assemblée provinciale. Ils réclamaient le paiement de plus de 10 mois de salaire et d'indemnité de sortie. Tous avaient presté sous les anciens gouverneurs Théo Baruti et Jean-Pierre Lola Kisanga de Kisangani, une correspondance de José de Chartomenga.
Plus de 250 personnes sont concernées par cette situation. Il s'agit de membres des cabinets politiques, de personnels divers, voire des policiers. Ils voulaient faire entendre leur voix devant le Parlement provincial. Jean-Stani Bilanga, porte-parole des manifestants.
Nous sommes en sit-in ici à l'Assemblée provinciale, juste pour réclamer nos droits. Ce sont les arriérés des salaires et d'indemnité de sortie que nous n'avons jamais perçus, alors que nous savons, il avait été dit que nos arriérés devaient être payés par le gouvernement. Les démarches ont été menées, nous avons appris que cet argent est sorti et cet argent a pris une autre destination que nous ne connaissons pas.
De son côté, le vice-gouverneur de province, assumant l'intérim de son titulaire, appelle le concerné au calme. Pour Joseph Bangakia, Kinshasa n'a pas encore rétrocédé les fonds pour la période concernée.
Il faut que les esprits s'apaisent. C'est de l'argent qui leur appartient. Il faut qu'ils se renseignent très bien parce que jusqu'à présent, la province n'a bénéficié qu'une seule fois des rétrocessions pour l'année en cours, l'année 2007. Et nous avons déjà payé 2 mois sur les 3 mois au cours desquels ils ont eu à prester pendant cette année. Pour le reste, les indemnités de sortie et les arriérés, cela sera sûrement apuré, mais le budget prendra des dispositions par rapport à cela.
Dans un mémorandum transmis à la presse, les agents concernés menacent d'assigner le gouvernement provincial en justice au cas où ils ne trouvent pas satisfaction à leurs revendications. Kisangani, José Deschartes Menga, Radio Okapi.
Je le disais en titre, l'aide offerte par le gouvernement central au sinistre de Kanyola en territoire de Walungu tarde à parvenir à ses destinataires. Aujourd'hui, certaines associations locales de développement accusent les personnes l'ayant reçu de l'avoir détournée. Le président de la société civile de Kanyola réfute ces allégations et annonce que la distribution débutera incessamment. Déjà 10 jours se sont passés depuis que le ministre des Affaires humanitaires a remis cette assistance à la notabilité locale à l'occasion de sa visite de confort aux victimes des attaques de combattants Hutu rwandais. Jean Kassami.
Les dons en question est constitué des effets tels que la friperie, du sel, du sucre et des bidons vides, du savon, des boîtes de conserve, du lait en poudre et une somme d'argent. C'est autour de cet argent que la population de Kanyola fonde tous ses soupçons de détournement. Hier, un groupe d'habitants de Kanyola sont venus se plaindre auprès de l'administrateur du territoire de Walungu. Selon eux, le ministre leur avait remis plus de 4 000 $, mais la notabilité locale brandit moins de 500 $ américains. L'administrateur a promis de convoquer l'équipe de 3 personnes qui ont réceptionné les dons. Toutefois, il précise que le montant de 4 800 $ est exagéré. Contacté, le chef de groupement reconnaît avoir perçu une enveloppe de 500 $ uniquement. De son côté, le ministre des Affaires humanitaires affirme qu'il a remis à la population l'équivalent de 3 vaches, soit 750 $ américains. Jean-Claude Muyambo ajoute que le gros du montant était remis à l'hôpital pour achat des médicaments. Bukavu, Jean Kassami pour Radio Okapi.
En Nord-Kivu, mise en place d'un plan quinquennal sur la gestion des ressources forestières et environnementales dans la province. C'est le résultat d'un travail de 6 jours à Goma par le réseau pour la conservation et la réhabilitation des écosystèmes forestiers, CREF en sigle. 92 participants, membres parmi lesquels des responsables des services étatiques, des députés provinciaux et autres acteurs de la société civile y ont pris part. Pour le CREF, le code forestier doit être respecté, mais les autorités établies doivent également prendre en compte les besoins des communautés riveraines de ces réserves forestières et environnementales. Alphonse Muindo Valivambene, secrétaire général du CREF, au micro de Sylvestre Kilolo.
Nous avons défini au niveau du plan que d'ici 2011, que les communautés forestières soient en mesure de répondre à au moins 5 besoins élémentaires de vie grâce à la gestion rationnelle et durable des ressources forestières, comme le manger, comme l'habitat décent, comme la scolarisation, comme l'accès aux soins de santé primaires et l'habillement, par exemple. La forêt, c'est une ressource. Et donc nous devons être en mesure de transformer les ressources en moyen de survie des communautés. La forêt, c'est une source de vie pour les communautés. C'est pour cela que nous disons qu'il faut bien la gérer pour qu'elle assure la survie des générations présentes et futures.
Cap à l'ouest du pays, à Bandundu, l'Union des consommateurs décrit l'abattage illicite des vaches sur la ville. Elle redoute que cette pratique qui échappe au contrôle des services vétérinaires et hygiéniques ne puisse avoir des conséquences néfastes sur la population. Sur ces, elle réitère son appel à l'autorité publique pour canaliser l'abattage à l'abattoir public et protéger les consommateurs. Fabien Mounsete, président de l'Union des consommateurs, s'exprime au micro de Basile Bakoumane.
Nous inquiétons beaucoup sur la consommation de viande. Partout, on abat des viandes et pas contrôlées par les services tutelles. On abat, mais on ne touche même pas les services d'hygiène là-bas. Ce n'est pas bien contrôlé. Et puis, la situation de la vente là, on met même sur la terre, tout cela, vous voyez que c'est scandaleux. Hein. Nous ne sommes pas contents de cette histoire-là, même l'abattoir, même la consommation, même la vente, tout cela. Nous regrettons. S'il n'y a pas de contrôle, ça donne des maladies par-ci, par-là, pour notre consommation. C'est ça que nous demandons aux autorités de bien veiller sur la consommation de bonnes viandes, parce que par le modèle que les mamans cherchent à vendre là-bas, vraiment ça inquiète beaucoup pour la consommation.
Contactez M. Anissé Moukiamalou, inspecteur urbain de l'agriculture et élevage, s'est dit conscient des conséquences qui peuvent découler de cette situation. Il demande cependant aux abatteurs de s'orienter vers l'aire d'abattage public qui existe pour faciliter le contrôle. Retour à l'est du pays, dans le Nord Kivu, la mairie de Beni impose des uniformes numérotés aux taximens moto. L'objectif est de mettre fin aux faux motards qui, la nuit, extorquent les biens de passagers. La mesure de l'exécutif urbain est saluée par la population qui y voit un moyen de mettre hors d'état de nuire les faux motards qui sèment l'insécurité la nuit. Le point avec Étienne Mwindo.
C'est depuis jeudi dernier que les motards de Beni portent l'uniforme numéroté. Cet uniforme est constitué de gilets avec numéro dorsal. Il coûte 1000 francs congolais, soit 2 dollars américains. Certains motards doutent de l'efficacité de cette mesure qui n'empêchera pas, selon eux, les bandits de se déguiser en taximen pour ternir leur image. Faux rétorque le maire de ville de Beni, M. Jules Mungwana, qui souligne qu'à l'espace de 4 jours, 750 motards se sont procurés l'uniforme numéroté. En outre, poursuit-il, la mesure porte déjà ses fruits. Les motards, auteurs d'accidents de circulation, sont vite repérés et conduits à la police de roulage pour répondre de leurs fautes. Monsieur le maire estime à 1500 l'effectif total des motards. Leur identification permettra aussi à la SONANS, au service des impôts, de maximiser leurs recettes. Le maire rappelle que le port des gilets numérotés est obligatoire le jour comme la nuit. Étienne Mwindo, Butembo, Radio Okapi.
Fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi.